Et notre invitée ce matin, Martine Clavel, préfète des Hautes-Alpes, bonjour.
Bonjour.
Avant de revenir sur la crise sanitaire, l'actualité, on en parlait un instant, c'est le maire de Gap-Projet Didier qui estime que la préfecture, et je le cite, se moque des Hauts-Alpins, se moque des Gapensés. Selon lui, le chantier de la rocade est long, très long, trop long selon lui, alors que la ville avait eu la maîtrise d'ouvrage du carrefour du Sénateur. Les travaux se terminent cette semaine, c'est un an de gagné. Mais il pensait que ça allait accélérer le calendrier du tronçon central. Finalement, ses espoirs sont douchés. Ce sera juillet 2021 pour le carrefour vers la Polyclinique, 2024 pour la portion centrale. Alors, est-ce que vous vous moquez des Gapensés comme il le dit ?
Évidemment, non. Je comprends parfaitement l'insatisfaction du maire et même sa colère. Qu'il a largement eu l'occasion de témoigner devant moi. Encore une fois, je la comprends. Et pour autant, je ne sais pas rattraper le temps passé. Voilà, quels que soient mes talents et mes dons, je n'ai pas celui-là, rattraper le temps passé. Et aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que si nous n'obtenons pas les compléments de financement pour le tronçon central, eh bien, nous risquons fort d'avancer encore plus lentement.
Parce que voilà, c'est ce qu'il refuse. Il refuse de payer une facture qu'il juge trop salée. Au départ, on prévoyait 36 millions d'euros. Désormais, c'est 56 millions d'euros. Il refuse de financer la part de la ville dans le surcoût. Un surcoût de 7 millions d'euros. Sa part, c'est 16%. Ça fait un manque à gagner d'à peu près 1 120 000 euros. Qu'est-ce que vous comptez faire par rapport à ce surcoût? Est-ce qu'on peut obliger le maire à payer?
On n'obligera pas le maire à payer, en revanche, les crédits de l'État et les crédits également des autres financeurs, s'ils ne sont pas complétés, risquent fort d'être orientés vers d'autres chantiers. C'est une crainte que j'exprime, pas une menace. Il faut bien le comprendre.
Donc en fait, vous comprenez la colère du maire, mais en même temps, vous ne comprenez pas le fait qu'il refuse de payer cette facture.
Dès lors qu'il y a un décalage des chantiers dans le temps, il y a automatiquement un surcoût. Et ce surcoût, l'habitude dans tous les chantiers routiers et dans tous les chantiers publics, quels qu'ils soient, c'est qu'on garde la clé de financement initiale et que chacun, comme on dit un peu couramment, remet au pot pour compléter le financement nécessaire. À réaliser l'opération. C'est notre vocation, c'est notre souhait à tous.
Roger Didier prend en otage finalement le chantier de la rocade ?
Je ne dirais pas ça. Je dirais que Roger Didier exprime son mécontentement comme il est en le droit de le faire.
Alors c'est ce soir qu'Emmanuel Macron s'exprimera devant les Français face à la crise sanitaire. Certains demandent aujourd'hui, beaucoup d'ailleurs, demandent des réponses claires parce qu'ils dénoncent des messages plutôt flous, voire contradictoires de la part du gouvernement. Question toute simple, est-ce qu'on va être reconfinés ?
Alors notre objectif, aussi bien localement qu'au plan national, est d'éviter le reconfinement. C'est vraiment, si je puis dire, le chiffon rouge pour nous. On ne veut absolument pas reconfiner la population. Ça a eu un coût humain, un coût social, un coût financier tellement important, tellement monumental, qu'il faut absolument l'éviter. Et autant la première fois, on a été contraint, on n'a pas eu d'autre solution que celle-là pour préserver la population compte tenu de la progression extrêmement rapide du virus. Autant aujourd'hui, nous connaissons beaucoup mieux ce virus, nous connaissons aussi beaucoup mieux les moyens de nous en protéger. Et notre responsabilité à tous, aussi bien individuellement que collectivement, c'est d'éviter qu'ils ne reprennent le pas, qu'il ne remonte encore davantage. Il est déjà nettement remonté en France et partout. C'est absolument d'éviter qu'il ne reprenne le pas et qu'il nous oblige de nouveau à cette situation.
Justement, par rapport aux chiffres, au 5 octobre, le département des Hautes-Alpes comptait 20 personnes hospitalisées, 4 personnes en soins critiques, 8 établissements sanitaires ou assimilés impactés par des clusters ou se trouvant en situation à risque de cluster et 22 personnes décédées. Aujourd'hui, on en est où dans ce bilan ?
Eh bien, il continue de progresser, si je puis employer ce mot, puisque nous avions 24 personnes hospitalisées, dont 2 en réanimation au 12 octobre, 22 personnes, là le chiffre n'avait pas évolué jusqu'à très récemment, nous avons eu de nouveau une personne décédée hier soir, une personne de 83 ans, et puis nous avons actuellement 14 clusters actifs. Donc voilà, la situation continue de se dégrader.
Tous les territoires sont concernés, on parlait un moment du Briançonnais qui voyait des chiffres augmenter, aujourd'hui on en est où? Toujours le Briançonnais comme zone plutôt rouge?
Le Briançonnais et le nord du Briançonnais, enfin le nord du département, est plus rouge que rouge, mais d'autres territoires, le Gaponçais, l'Embrunais, vraiment tout le département est concerné. Tout le monde doit se sentir concerné. On a trop tendance à considérer qu'avec notre beau ciel et notre air pur, on n'est pas concerné par le virus, mais nous le sommes. Nous approchons des 150 cas pour 100 000 habitants, donc nous approchons du rouge renforcé.
On était à 71, c'est le taux d'incidence, on parle de ça.
Le taux d'incidence.
On en est à 150 aujourd'hui,
on approche des 150. À la date d'hier, nous étions autour des 150 cas pour 100 000 habitants, donc on approche. Alors qu'il y a 10 jours, nous prenions l'arrêté préfectoral constatant le passage en rouge alerte. Là, nous allons passer très vraisemblablement, évidemment, je ne le souhaite pas, mais nous sommes sur cette pente-là.
Parce que dans les Bouches-du-Rhône, quand on a eu atteint cette pente de 150, il y a eu des restrictions qui ont été mises en place, notamment au sein de la restauration. Va-t-on arriver à ces restrictions, justement, puisque si aujourd'hui, on va rappeler ce qui est interdit dans les Hautes-Alpes, pas de rassemblement festif ou familial de plus de 30 personnes, port du masque obligatoire dès 11 ans sur les marchés, vente au déballage, vide-grenier, foire, fête foraine, ainsi que dans un rayon de 30 mètres des entrées et sorties des établissements scolaires, 15 mètres dans les arrêts de transport, les soirées étudiantes sont interdites, tout comme les buvettes. Finalement, ces restrictions ne suffisent pas, puisque ça progresse encore aujourd'hui. On va aller jusqu'où ?
Les mesures qui ont été prises il y a une dizaine de jours n'ont encore pas produit tous leurs effets, manifestement, puisque avec les temps d'incubation, avec le temps de propagation du virus, ces mesures-là n'ont pas encore produit tous leurs effets. Donc il ne m'appartient pas aujourd'hui de dire que le passage en rouge renforcé va se faire. C'est Santé publique France, le ministère de la Santé vont analyser l'ensemble des indicateurs et estimer s'il est nécessaire ou pas. S'il est opportun ou pas de passer le département des Hautes-Alpes dans l'étape supérieure, qui est donc l'alerte rouge renforcée.
Et ça voudra dire quoi sur le terrain ?
Alors, ça voudra dire, en tout cas ce que ça veut dire aujourd'hui dans les départements qui sont en rouge renforcé, c'est non pas des fermetures des restaurants, mais une fermeture anticipée des bars à 22h. S'agissant des restaurants, dans le Briançonnais comme dans le Gaponçais, les maires et la sous-préfète de Briançon et moi-même avons appelé l'attention des restaurateurs et des débitants de boissons pour vraiment les appeler. On sait qu'ils sont mobilisés à quelques rares exceptions près, mais les appeler à être encore plus vigilants, aussi bien dans leur relation avec leurs propres salariés que dans la relation avec la clientèle. Et sur Briançon, même des protocoles renforcés ont été élaborés par les restaurateurs et par les débitants de boissons.
Un cahier Covid a été mis en place. Est-ce qu'il pourrait se généraliser d'ailleurs dans d'autres villes ?
Voilà, aujourd'hui, ça n'est pas considéré comme une obligation, mais pas en tout cas à ce stade de l'alerte, et pas encore aujourd'hui, puisque les mesures peuvent bien sûr évoluer encore dans les jours qui viennent au niveau national au regard de l'évolution du virus.
On a entendu des couvre-feux locaux. Est-ce que ça pourrait être le cas dans les Hautes-Alpes ? Est-ce que vous avez certaines informations ? C'est-à-dire à quel moment on peut passer dans un couvre-feu, dans une période de couvre-feu ?
Alors, nous avions déjà, au moment de l'état d'urgence sanitaire, les préfets avaient la possibilité de décréter le couvre-feu lorsque des rassemblements nocturnes étaient susceptibles d'être non maîtrisés et donc de faciliter la propagation virale. Nous ne l'avons pas utilisé dans les Hautes-Alpes parce que nous ne sommes pas des hauts lieux de la vie nocturne, évidemment hors saison touristique battante. Ça n'était pas le cas au printemps. Je ne sais pas si nous serons amenés à prendre cette mesure à l'avenir, mais elle ne me semble a priori pas en totale adéquation avec les caractéristiques de notre département.
Par rapport au plan de relance, Madame la Préfète, le plan de relance, est-ce qu'on arrive à avoir un certain recul sur les mesures qui ont été mises en place ?
Alors, pour le plan de relance, on n'est pas encore dans le recul, on est plutôt à fond.
Dans la mise en place.
On est plutôt à fond pour, en effet, veiller à ce qu'il soit bien connu de l'ensemble des acteurs du territoire, aussi bien des acteurs économiques que des acteurs élus, collectivités, associations et autres. Donc on fait un maximum de communication auprès de tout le monde pour les informer de la teneur du plan de relance. Et puis en parallèle, nous faisons également ce qu'on appelle une revue de projet, c'est-à-dire qu'on essaye d'identifier tous les projets de tous ces acteurs qui pourraient faire l'objet d'une aide au titre du plan de relance, de façon à être sûr que le département des Hautes-Alpes pourra bénéficier de ce plan de relance.
Dernière question, dernier sujet par rapport à la chasse au tétralyre et au galopède en montagne. La Fédération de la chasse a déposé un pourvoi en cassation. Elle rejette la décision de la justice la semaine dernière qui suspend cette chasse. La Ligue de protection des oiseaux déclarait que c'était une obstination préfectorale.
Ça n'est pas une obstination préfectorale, c'est l'application du droit. Aujourd'hui, ce sont des espèces qui sont chassables. Et donc, lorsque la Fédération de chasse propose un plan de chasse incluant la possibilité de chasser ces espèces, et dès lors que les inventaires qui ont été faits montrent que le nombre de spécimens est suffisant pour faire l'objet d'une chasse évidemment homéopathique, eh bien dans ce cas-là, nous sommes tenus, et je suis tenue de signer l'arrêté. Donc ça n'est pas une obsession, non.
Merci beaucoup Martine Clavel. Je rappelle que vous êtes la préfète des Hautes-Alpes et vous vous exprimez justement sur la crise sanitaire. Une interview retrouvée en podcast sur alpin.com.